7.
Eureka.
Dans le top 10 des douleurs les plus intenses, on trouve la migraine, l'accouchement ou encore la piqûre de Paraponera, une fourmi amazonienne. Dans la vie, beaucoup de choses font mal, comme se cogner le petit doigt de pied. Vivre, c'est être mordu, faire mal et se faire mal, comme l'écrit Hélène Cixous. Cette expérience universelle de la douleur est prise en considération depuis l'Antiquité. Aujourd'hui, l'usage de l'aspirine ou du paracétamol est devenu banal pour la plupart d'entre nous. Mais malgré les avancées de la médecine, en 2022, près de 30% de la population française souffre encore de douleurs chroniques. Est-ce qu'un jour, l'humanité ne ressentira plus la douleur ? Antidouleur, jusqu'au bout de vos peines, c'est notre invention du jour, une invention qui soulage. Bienvenue dans Eureka. Et pour retracer l'histoire du traitement de la douleur au fil des siècles, nous avons le plaisir de recevoir en direct des studios de France Culture, Niels Kelsel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien de la médecine et de la santé, maître de conférences à l'université de Strasbourg. Avec nous également, Fabrice Laurin, bonjour.
Bonjour Natacha, bonjour aux auditeurs.
Vous êtes médecin psychiatre des hôpitaux en CHU, spécialiste de la douleur chronique depuis 35 ans. Alors tout au long de cette heure, nous allons voir un comment dans l'histoire nous avons tenté d'apprivoiser la souffrance physique. Cela n'a pas toujours été le cas, mais depuis 1979, le code de déontologie médicale oblige le médecin à prendre en compte la douleur de son patient et à la soulager.
De quoi souffrez-vous ?
Oh, bah, attendez que je réfléchisse. Eh ben voilà. Quand j'ai dîné,
oui,
eh ben il y a des fois que je sens comme une espèce de démangeaison ici.
Oui.
Oui, ça me chatouille, ou bien plutôt, ça me gratouille.
Attention, attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille?
Ah, ça me chatouille. Mais ça me gratouille bien un peu aussi.
Oui. Désignez-moi exactement l'endroit.
Par ici.
Par ici, oui. Et où ça, par ici?
Là.
Oui.
Oh, peut-être bien là. Entre les deux, quoi.
Entre les deux,
ouais.
Oui. Juste entre les deux. Mmh. Est-ce que ça ne serait pas plutôt un rien à gauche? Là où je mets mon doigt.
Ah, il me semble bien.
Ouais, ouais. Et ça vous fait mal quand j'enfonce mon doigt?
Aïe! Ah oui. Ah, on dirait que ça me fait mal.
Ah, 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 ah. Est-ce que ça ne vous gratouille pas davantage quand vous avez mangé de la tête de veau à la vinaigrette?
Bon, j'en mange jamais. Oh, mais il me semble bien que si j'en mangeais...
Oui, oui, oui.
Eh ben, effectivement, ça me gratouillerait plus.
Ah, 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 ah.
Le diagnostic du docteur Knock, un clin d'œil avant d'aborder cette histoire éprouvante. Aujourd'hui, la douleur est à l'origine des deux tiers des consultations médicales. Mais à partir de quand trouve-t-on des traces de la prise en charge de la douleur, Fabrice Laurin? Est-ce qu'on en trouve dès la préhistoire, par exemple?
Ah oui, alors quelques anecdotes. Déjà, on en trouve au Paléolithique. Il y a une très belle histoire qui se passe au Maghreb où c'est une jeune femme qui est tombée d'une falaise et on a retrouvé, on a regardé les débris osseux, si vous voulez, de son squelette. Et cette femme, en fait, suite à cette chute, elle a quand même survécu un an avec des fractures du bassin, des plaies gigantesques. Enfin, vraiment une grosse pathologie traumatique. Et on se rend compte qu'elle a survécu au sein de son clan, au sein de sa famille, pendant environ un an. Ce qui veut dire qu'elle avait de la douleur, mais qu'il y a eu ce lien social très puissant, cette aide médicale. Et on ne sait pas comment. Peut-être des plantes, hein, les quatre fameuses plantes connues depuis l'Antiquité, qui ont aidé cette femme. Ensuite, il y a un petit peu plus tard, au Néolithique, bon, on est toujours en Europe avec Ötzi, qui franchit les Alpes. Et là, il est très curieux de voir que les tatouages qui ont été retrouvés sur son membre inférieur, en réalité, dessinent le trajet du nerf sciatique. Donc, la question s'est posée pour les médecins de l'anthropologie et de la paléontologie. Est-ce qu'il ne souffrait pas d'une sciatique? Enfin, on est au néolithique, il y a Sumer. Et là, Sumer, on commence à utiliser les plantes antidouleurs. Ce qui est très étonnant, c'est qu'en même temps, on découvre dans l'époque sumérienne, dans la civilisation sumérienne, le pavot et les antalgiques. Et en même temps, pas très loin, on invente le vin et la vinification. Pour moi, il y a quand même, au sein de ce néolithique, le début d'un traitement par l'alcool ou par les médicaments.
On verra d'ailleurs, c'est un traitement qui sera présent tout au long de cette histoire. Donc 3100 ans avant notre ère, on trouve donc ces traces de pavot. Ça suggère donc que les hommes et les femmes du Néolithique connaissent les propriétés du pavot. Est-ce que, Niels Kessel, est-ce qu'on peut rappeler d'ailleurs quelles sont les propriétés de cette plante?
Oui, en fait, ce qui est particulièrement intéressant avec le pavot et donc plus tard l'opium, donc qui en est dérivé, et les opiacés qui sont les dérivés de l'opium et qui font d'aujourd'hui encore nos plus importants antidouleurs, c'est le fait que ce sont des médicaments qui ont ou des substances qui ont des effets multiples, c'est-à-dire qui ne se limitent pas à une douleur somatique proprement parlée. Mais qui ont justement, Fabrice Laurent l'a déjà dit, il y avait un accompagnement. Donc la douleur, ce n'est pas simplement un problème somatique, ça a plein de dimensions à la fois psychologiques, sociales. Et donc le pavot, entre autres, est un de ces produits qui peut être utilisé justement parce qu'il est calmant aussi, parce qu'il permet aussi de se reposer idéalement.
Fabrice Laurent, sur les propriétés du pavot.
Alors, je voulais juste compléter ce que disait Niels Kessel, c'est-à-dire qu'en fait, il y a le pavot qui est le plus connu, mais il y a trois autres plantes, et à chaque fois, effectivement, c'est la même description. Ce sont des plantes, alors il y a la mandragore, la jusquiame et la morelle, ainsi que le pavot. Donc, ce quartet un peu de plantes qu'on connaît depuis l'Antiquité, elles ont toutes, pour la plupart, des propriétés anti-inflammatoires, analgésiques, sédatives, parfois hypnotiques et antalgique. C'est-à-dire, ce que dit Niels Kessel, c'est vrai. C'est-à-dire que ça agit sur la douleur, mais pas seulement. Ce sont des psychotropes. Ils agissent aussi sur la dimension émotionnelle de la douleur.
Alors, nous verrons tout au long de cette heure que la question du traitement de la douleur est toujours liée à la culture et à l'époque dans laquelle elle s'adresse. Alors, qu'en est-il, plus précisément, à l'Antiquité ? Fabrice Laurent.
À l'Antiquité, il y a deux douleurs. On connaît l'Antiquité grecque surtout. Je peux vous parler de l'Antiquité chinoise aussi, qui est intéressante à travers Bouddha et ce qu'on appelle le livre des médecines internes, le Guangdi Neijin. Mais je vais rester sur l'Antiquité grecque.
Restons avec les Grecs.
Deux douleurs dans l'Antiquité grecque. On reste chez les Grecs. Alors, il y a la douleur de guerre liée aux conquêtes d'Alexandre le Grand, bien sûr. C'est-à-dire que les Grecs sont quand même une force militaire remarquable. Ils sont allés jusqu'en Inde. Et la médecine doit traiter les douleurs du javelot, de la pointe, de la lance. On retrouve ça dans les récits d'Homère. Et puis, la deuxième douleur, c'est la douleur de la femme. C'est la douleur de l'accouchement qui, dès les traités grecs, de médecine grecque, est prise en considération.
Alors, que dit Fabrice Laurent.
Alors, que dit Hippocrate? Hippocrate, c'est quand même pour nous, on était dans une médecine assez magique. Les lieux de la médecine étaient doubles. C'était le culte d'Asclépios, dont descend d'ailleurs Hippocrate. Il est le 17e de la famille des Asclépiades. Et d'autre part, il y avait Delphes. Delphes avec les pithies delphiques. Mais là, on était vraiment elles étaient un peu hallucinées. On sait maintenant que c'était les produits à Delphes étaient proches de produits chimiques. Enfin voilà, ça ne me revient pas pour l'instant. Alors que dit Hippocrate? Il dit quand même, et ça c'est quelque chose qui a toujours été présent, y compris dans mes études, bon, il y a un petit moment, mais enfin, c'est-à-dire qu'il faut respecter la douleur, parce qu'Hippocrate se disait que si on calmait la douleur, on risquait de ne pas voir les autres symptômes et de ne pas faire un diagnostic. Diagnostic, la racine grecque, c'est diagnosein, connaître à travers. Et donc, il fallait pas supprimer un symptôme parce que c'était amputer, si je puis dire, la richesse sémiologique et la chance de faire un bon diagnostic.
Alors, c'est aussi.
Maintenant, Hippocrate n'était.
Oui, pardon.
A permis aussi la douleur, a permis aussi le traitement de la douleur. Ce qu'il faut se dire sur toute cette période, en fait, quasiment au 19e siècle, c'est que peut-être que l'élite était traitée pour la douleur, mais la masse, l'énorme masse des gens qui travaillaient, des paysans, des ouvriers, etc., n'avaient aucun accès à la médecine. Enfin, c'était quand même extrêmement précaire et voilà.
Alors, pour rester avec, en tout cas, nos Grecs et avec Hippocrate, ce père de la médecine, il me semble que c'est aussi à cette époque qu'on cherche à décrire et à bien mesurer la douleur également, Niels Kessel.
Oui, Fabrice Laurent a déjà insisté sur le fait d'une médecine assez exclusive. Il faut en effet distinguer, et d'ailleurs jusqu'aujourd'hui d'une certaine façon, par rapport entre ceux et celles qui avaient accès à la médecine et ceux qui en sont privés pour différentes raisons. Et pendant longtemps, en fait, la médecine n'est pas un service accessible à une grande partie de la population. Il n'est même pas, un premier recours. Ça reste, et c'est toujours le cas aujourd'hui, ça reste d'abord l'auto-aide, entre guillemets, puis l'entraide et idéalement, après un accès à la santé. Mais quand on regarde dans la longue histoire, on verra que la médecine en fait entre tardivement. Et l'enjeu dans la douleur, bien évidemment, il est directement lié aussi à la nécessité de traitement. Est-ce que la médecine en dispose ou pas? Et pendant longtemps, en fait, elle dispose justement de produits comme l'opium, mais en fonction des régions du monde, dans des quantités plus ou moins limitées. Donc en quelque sorte, il se développe à côté toute une médecine dont Fabrice Lorrain a déjà nommé l'un des plus importants remèdes, qui est l'alcool. C'est-à-dire toute une médecine, entre guillemets, autre, non pas forcément médicale d'un point de vue scientifique, qui traite, mais avec beaucoup d'efficacité, comme vous le connaissez dans le cadre de l'alcool. Ce sont des substances très fortes, pas forcément sans conséquences, mais qui, de fait, coexistent à côté d'une thérapie de la douleur plus officielle, qui après change avec les différents concepts que se font les différentes médecines au pluriel tout au long de l'histoire. Donc que ce soit la médecine hippocratique, galénienne ou plus tard les débuts de la médecine scientifique.
Mais on évoque l'alcool, le pavot. Hippocrate, qui a étudié les plantes une grande partie de sa vie, hein, est le premier à définir d'ailleurs donc les attributs du pavot, mais aussi le premier à prévenir des surdosages possibles. Fabrice Lorrain.
Ah ben écoutez, vous me l'apprenez parce que ça je ne le savais pas, sincèrement. c'est un beau scoop. Non, ce qui me semble important pour l'Antiquité, l'héritage de l'Antiquité qu'on a, et c'est que Hippocrate et Galien définissent, Hippocrate définit la douleur comme une sensation et un peu plus tard Galien, plutôt Aristote d'ailleurs qui était très proche d'Hippocrate, et plus tard Galien comme une émotion. C'est-à-dire que la douleur elle est mixte, elle est sensation, nociceptive comme on dit maintenant, ou neuropathique, etc. Et elle est émotion. Et ce doublé, cette intuition grecque, même s'il y a 500 ans d'écart hein, entre Galien, enfin, entre Hippocrate et Galien, ce doublé grec, cette intuition grecque est toujours valable 2000 ans après. C'est quand même sidérant comment ces hommes qui d'ailleurs n'avaient pas le droit de disséquer, puisque aussi bien Hippocrate, il a disséqué les moutons, hein, et Galien était plus malin, il a disséqué des singes et des gladiateurs, puisqu'il était le médecin des arènes du Colisée, et donc il voyait un petit peu ce qui se passait à l'intérieur du corps humain, l'intuition qu'ils ont développée à l'égard de la douleur, mais de la médecine en général.
Alors, pour rester sur ces histoires justement d'alcool, de pavot, hein, et puis ce qu'on verra tout au long de l'histoire de la médecine, il y a l'enjeu hein, de développer des antidouleurs d'une grande efficacité, mais sans addiction. Hein. C'est bien ça, Niels Kesser?
Oui, c'est probablement le problème fondamental de notre régime de ce qu'on appelle aujourd'hui des drogues, c'est-à-dire que dans le cadre de mes spécialités à partir du 19e siècle, mais bien avant, on est conscient que certaines substances produisent justement des formes qui sont qualifiées différemment en fonction des époques et aussi des registres explicatifs, médicaux et scientifiques ou religieux, moraux. Mais on retombe toujours sur des personnes justement qui entretiennent des rapports très particuliers avec des substances et dont on découvre en fait des conséquences parfois néfastes, comme des problèmes physiques, somatiques par exemple, des effets indésirables, comme on dirait aujourd'hui, ou qui ne remplissent plus leur rôle social dans une société en raison ou en lien avec la consommation. Et à ce moment-là, on invente en quelque sorte le problème social de ce qu'on appelle plus tard une drogue, et pour laquelle on érige plus tard, donc au XXe siècle notamment, tout un régime de police autour de cela.
Chamalou.
Pour Nathalie, arrête ton cinéma!
Mais tu veux pas que
C'est très douloureux.
Oui.
Oui, bah, c'est la tête de l'os qui est sortie de son logement. Bon, bah, je vais te remettre ça en place et puis ça ira tout de suite mieux après.
Et ça va faire mal.
France Culture.
Non.
Eureka.
Mais t'es folle, j'ai rien dit.
Natacha Triou.
On avance dans le temps et dans cette histoire de la douleur et on arrive au Moyen-Âge. Fabrice Laurin, est-ce que le Moyen-Âge fut un moment critique pour la prise en charge de la douleur ?
Alors, non, parce que c'est un monde plutôt viril de combat entre féodaux. On va dire qu'il y a, et puis c'est l'apparition du dolorisme catholique, hein, avec une imprégnation où la douleur, elle a une double fonction. Dans l'imprégnation catholique, c'est-à-dire que d'une part, il s'agit de revivre la passion du Christ, et d'autre part, les souffrances de Jésus-Christ pendant la passion, et puis d'autre part, il y a une dimension aussi que je qualifierais de narcissique, c'est-à-dire que le bon chrétien, il est élu. Il y a une dimension d'élection et de rédemption. C'est-à-dire que dans le catholicisme, c'est pas le ici et maintenant qui sera joyeux et plein de bonheur. Ça sera dans l'au-delà qu'on aura la récompense. Ici, dans l'ici et maintenant, on doit être vertueux. Donc voilà, je pense qu'aussi bien saint Augustin que les penseurs chrétiens du Moyen-Âge ont vraiment donné cette coloration doloriste. Par contre, il y a un personnage qui se distingue, c'est un personnage féminin, moi que j'admire beaucoup, c'est Hildegard von Bingen, qui est une noble allemande qui a un château dans la vallée rhénane, et qui est la première femme médecin de l'histoire, qui est nonne également, et qui a fait une recette, et elle compose de la musique qu'on peut trouver sur partout, hein, des très beaux chants, et elle compose une recette des biscuits de la joie, avec, je crois, beaucoup de cannelle. Et je crois que la cannelle est un élément antalgique aussi connu depuis longtemps, et un élément antidépresseur. On a découvert récemment que la cannelle avait cette... Donc je vous conseille aux auditeurs de se faire les biscuits de la triste, joie d'Hildegarde.
Si on est triste, voilà. Biscuits de la joie. Très bien. Alors, ce que vous disiez, ce que vous suggériez auparavant, c'est que le traitement de la douleur, en tout cas, n'est pas une priorité au Moyen-Âge. Excepté pour Hildegarde.
Moi, j'ai une admiration pour le Moyen-Âge parce que c'est quand même là que se fondent les universités. Imaginons l'université de Fès, la première, en 800. L'université de la Sorbonne par Robert de Sorbon, je crois qu'on est en 1100. L'université de médecine de Montpellier en 1220. Donc les grandes universités se créent là. Les jardins médicinaux aussi dans les universités et autour des monastères se créent également. Donc on voit qu'il y a un élan de médecine phytothérapie essentiellement, mais elle reste une médecine très galénienne et très hippocratique. Il n'y a pas de grande avancée, on va dire, pendant le Moyen-Âge.
Est-ce que ça signifie que les médecins n'ont pas toujours donc été au chevet de la douleur?
Disons que ils n'étaient peut-être simplement pas au chevet tout court, c'est-à-dire il faudrait vraiment différencier beaucoup pour dresser vraiment un panorama complet, mais parce que quand on regarde par exemple le monde arabe ou la médecine chinoise justement du Moyen-Âge, on a toute une pléthore justement de raisonnements et aussi des services qui existent déjà, qui sont accessibles à certains types de populations, et dans plus en France, en Allemagne et en Europe centrale, on a bien évidemment aussi des formes d'assistance, d'aide aux plus démunis, du type, par exemple, dans les hospices, etc. Mais ce ne sont pas des institutions hospitalières au sens moderne du terme. C'est-à-dire la médecine reste pendant longtemps, notamment dans les pays ouest européens, un accompagnement de milieux plutôt favorisés dans la maladie. Par rapport à la douleur, bien évidemment, ça n'empêche pas justement la prescription de breuvages de toutes sortes qui comportent des substances antalgiques, mais en quelque sorte, elle est trop restreinte en quelque sorte en termes de services pour couvrir toute une population. D'où l'importance aussi du traitement de la douleur par d'autres voies, pas que par des substances chimiques par exemple. On connaît le principe par exemple des massages ou de certaines pratiques liées au mouvement justement pour traiter des douleurs liées aux articulations, aux muscles. Et donc, il y a tout un éventail de pratiques qui se développent jusqu'à l'acupuncture chinoise qui, à un moment, finit par être importée aussi comme une pratique imaginée comme exotique. Donc, il y a en quelque sorte des pratiques qui sont soit tirées d'autres contextes et qui sont pas considérées comme médicales, dans le contexte dans lequel... elles arrivent, et il y a des formes d'auto-aide et d'entraide, et tout un savoir tacite qui n'est pas forcément fixé dans des écrits médicaux, par exemple, qui sont des pratiques donc traditionnelles, que l'on appelle traditionnelles, mais ça ne peut pas dire grand-chose, qui sont donc des pratiques de traitement de douleur dans le quotidien, de soins, qui coexistent à côté d'une médecine officielle qui, elle, s'appuie, comme l'a dit Fabrice Laurent, beaucoup sur la tradition justement hippocratique et galénique, mais qui commence aussi à se saisir des nouvelles substances qui viennent d'autres contextes.
Ça, c'est une idée assez répandue, hein, quand par jeu, par exemple, on demande à des amis s'ils auraient aimé vivre dans le passé, la plupart répondent d'accord, mais à condition de ne pas connaître les maladies et les souffrances atroces de la médecine de l'époque. Ça, c'est une idée fausse ou est-ce qu'on se trompe de penser comme ça, Niels Kessel?
Absolument. Non, absolument. Cette idée, elle n'est pas fausse du tout, parce que jusqu'à la fin du 19e siècle, on a quand même un niveau de douleur à tolérer qui est plus élevé qu'aujourd'hui. Simplement parce que, avec notamment l'industrialisation des opiacés et un autre dispositif qui voit le jour à peu près à la même période dans ses racines et ses origines, qui est le système de sécurité sociale, on élargit en fait largement le cercle des bénéficiaires de ce type de thérapie, qui peuvent désormais s'acheter quelque chose pour se soigner avec contre des douleurs qui peuvent être très très fortes.
Fabrice Laurent, par rapport justement à ces douleurs du passé, de cette ère médiévale.
Écoutez, moi je crois que quand on reprend, comme l'a dit Niels Kessel, les espérances de vie, dans la Rome antique c'était 21 ans d'espérance de vie, au Moyen-Âge c'était 35 ans, donc on voit que c'était quand même des périodes très difficiles sur le plan de la médecine, il y avait peu de traitements, soyons clairs, énormément...
Nous avons perdu Fabrice Laurent.
Je pense souvent aux grands épisodes de peste de 1347 qui ont dévasté quand même le tiers de l'Europe. Et effectivement, la dimension des premiers hôpitaux, qui étaient juste des sortes d'hospices tenus par les franciscains, souvent, enfin, les petits frères des pauvres, enfin voilà. Et on voit que la dimension religieuse était un accompagnement, en fait, une sorte de soin palliatif, proposant peu de solutions thérapeutiques. Et c'était, ouais, un accompagnement de la misère. Enfin, non, vraiment, moi je ne choisirais jamais le Moyen-Âge pour ma machine à remonter le temps.
Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas, je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur, saboter l'interrupteur. Je vais prendre ta douleur. Mais ce qui s'est incrusté, ça tourne avant les. De petite sœur, je vais tout lui confisquer, ses fléchettes et son sifflet, je vais lui donner la fessée. Je vais prendre ta douleur, la vie de la récré. Je vais prendre ta douleur. Mais c'est qui cette héritière qui se baigne, qui se taire dans le tiède de tes reins? Ceux qui n'ont plus faim. Je prends. Dites-moi que fout la science à quand se contre nos pensées. Tu as pas là où t'as peur, tu n'as pas mal là où je pense. Qu'est-ce qu'elle veut cette connasse, le beurre ou l'argent du beurre, vive ou que tu meurs. Faut que grève de bonheur ou qu'il change de godasse, pour qu'il croule sous les fleurs, change de couleur, je vais prendre ta douleur. Je vais jouer au docteur, je vais prendre ta douleur. Dites-moi que fout la science quand ce pont entre nos pensées. Tu as mal là où t'as peur, tu n'as pas mal là où je chante.
Camille, ta douleur à 16h26 sur France Culture, car nous parlons tout au long de cette heure de l'invention des antidouleurs avec nos invités Niels Kessel, historien de la médecine et de la santé et maître de conférence à l'université de Strasbourg, et avec Fabrice Laurin, médecin psychiatre des hôpitaux en CHU et spécialiste de la douleur chronique depuis 35 ans. Nous venons de parcourir le néolithique, l'antiquité et le Moyen-Âge. Nous arrivons à la Renaissance. Fabrice Laurin, que fait le médecin face à la douleur au XVIe siècle?
Alors, il y a une figure qui me paraît intéressante, c'est celle de Descartes. Descartes avec... Alors déjà, on est à l'âge classique, remarquez. Descartes qui définit deux choses. D'une part, bon, il s'est un peu trompé, hein, l'animal-machine, c'est-à-dire que il considère que l'animal n'a pas de douleur, ne ressent pas de douleur parce que il n'a pas d'émotion, il n'a pas le cogito. Bon, là, il s'est trompé. On sait maintenant, j'ai même lu une étude récente sur les insectes, comme quoi... Alors, les mammifères, on sait, hein, il suffit de marcher sur la queue de votre chat ou de votre chien et vous voyez qu'il gémit, il a peur, il a mal. Mais même les insectes aussi, visiblement, ont des signaux de douleur. Et la deuxième chose qu'il a apportée, c'est à partir d'un membre fantôme. C'est un homme qui avait eu la jambe coupée et il continuait à avoir la douleur justement dans ce membre inférieur qui était coupé, mais depuis des années. Et donc c'est là que Descartes s'est dit, mais cette douleur, elle n'est pas située dans le membre, elle est située ailleurs. Et là, il a fait un énorme pas en avant. Elle est située dans le cerveau. Et il l'a placée plus précisément dans l'épiphyse. Bon, il s'est trompé sur l'épiphyse, puisque en les aires de la douleur, on les connaît beaucoup mieux maintenant avec l'IRM fonctionnel. Mais il a fait quand même ce pas de géant de dire, bah non, la douleur, elle est pas en périphérie. Bien sûr que c'est le signal qui part, mais quand il y a plus le membre, il faut quand même l'expliquer, cette douleur qui est toujours pérenne et permanente, et là située dans les circonvolutions cérébrales.
Niels Kessel, est-ce qu'on sait, hein, comment on insensibilise, hein, la douleur au XVIe siècle? Ou plus tardivement, en tout cas, quand on avance comme ça dans le temps, on voit quand même des avancées qui se font progressivement au fil des siècles.
Oui, absolument. Ce qui est intéressant dans l'histoire de la douleur, c'est le fait que les progrès qu'a décrit Fabrice Laurin, c'est-à-dire cette localisation, cette tentative de localiser la douleur, produit à la fois un ensemble d'effets très positifs, c'est-à-dire ça ouvre des voies, notamment plus tardivement à la recherche, qui oriente l'idée de la douleur vers des paradigmes neurologiques et donc qui tente de localiser la douleur. Mais en même temps, ce qui est en quelque sorte l'autre face de la médaille, ça produit aussi un réductionnisme de la douleur, c'est-à-dire la tentative de la localiser dans le corps, donc dans l'organisme humain, fait que la dimension sociale et la dimension psychologique, jusqu'à un certain degré, perd en importance. C'est-à-dire, la douleur devient de ce qu'elle est aujourd'hui ou de ce qu'elle a surtout été au XXe siècle. Maintenant, il y a plus de thérapies qui se veulent plus holistiques. Elle est devenue en quelque sorte un symptôme physique et de ce fait a été réduite malgré une très grande diversité d'opinions et des descriptions très très fines. Il y a un réductionnisme qui commence à prendre place et qui à la fois permet donc de se focaliser sur le traitement, sur le développement de thérapies, sur des meilleures connaissances en anatomie, en physiologie, notamment des nerfs et du cerveau, mais à la fin, en fait, ça enlève en quelque sorte toute une dimension sociale et jusqu'à un certain degré aussi mentale de la douleur et la délimite par rapport à d'autres sensations qu'a déjà décrit Fabrice Laurent et qui, ce qui est ironique, qui sont réunies dans des substances comme par exemple l'opium, c'est-à-dire des sensations, des effets sédatifs, donc des sensations qui calment, qui ralentissent le corps, disparaissent directement de cette vision de la douleur jusqu'à un certain degré et sont rangées dans d'autres formes de connaissances, notamment des connaissances psychiatriques et donc dans des registres différents de ce qu'on appelle à ce moment-là la santé mentale. Donc on peut retracer à travers l'histoire de la douleur jusqu'à un certain degré aussi la séparation en quelque sorte qui s'opère surtout au 19e siècle, mais Fabrice Laurent a tracé déjà les débuts, c'est-à-dire cette distinction entre un corps et une âme, plus une psyché.
Alors sur ce corps, justement, les plantes sont de plus en plus mises en place dans la prise en charge de la douleur, mais il y a aussi un certain nombre de techniques et de pratiques qu'on a tendance à oublier, Fabrice Laurent. Est-ce qu'on peut les rappeler au cours de ces siècles, que ce sont le 16e, le 17e, le 18e siècle, et qui sont également tombés dans l'oubli.
Il me vient Sydenham et le Laudanum. Après, il y a eu des techniques un peu sadiques. Hein. Enfin bon, il y a peu de techniques qui ont survécu quand même à l'histoire. C'est vrai que, comme le dit Niels Kessel, on est dans des époques où il y a le dualisme. Hein. Le corps et l'âme sont séparés. Et je pense qu'il faut, à part l'exception Spinoza, qui avec son monisme qui a été extrêmement à l'avant-garde, ce n'est qu'au XXe siècle et encore avec les sciences humaines, Freud et puis et la guerre du Pacifique, je dirais, mais ça on en parlera plus tard, que la vision globale et holistique de l'être humain est apparue dans sa complexité. Maintenant, on est dans un modèle en médecine triple bio-psychosocial. Donc, on est dans le biologique. En douleur, il y a des éléments biologiques, psycho, voilà, relationnel, émotionnel et social, parce que le lien social et le corpus social ont une grande valeur dans la douleur. Moi, je relis à chaque fois derrière la douleur, vous savez, il y a l'empathie. Et l'empathie, on peut pas, très curieusement dans le cerveau, la structure de l'empathie, elle est derrière celle de la douleur. On peut pas déconnecter les deux. Si j'ai fait médecine, moi, je crois que j'avais beaucoup d'empathie et que voilà, à chaque fois, je ressens aussi une partie de la douleur ou de la souffrance des patients. Donc tous ces siècles, il y avait peut-être une empathie de la part des religieux. Mais ils étaient quand même démunis pour apporter. Alors voilà, tout un tas de. Il y a eu l'ère de l'électricité au 18e. Des élongations de tout un tas de choses sur la douleur, mais c'était quand même. Ouais, c'est pas resté dans l'histoire, si ce n'est sur un plan un peu anecdotique, quoi, et parfois un peu sadique.
Est-ce qu'au siècle des Lumières, est-ce qu'au 18e siècle, on voit des progrès importants dans la gestion de la douleur, Fabrice Laurent?
Alors, au 18e, le 18e est intéressant. Qu'est-ce qu'il y a comme expérience? Il y a Charlotte Corday. Je vous donne des anecdotes parce que souvent c'est. Eh bien, on se demandait si après décapitation, donc Charlotte Corday, elle a assassiné Marat, hein, bien sûr.
Fabrice Laurent n'est plus là. Nous avons une très mauvaise connexion avec vous, Fabrice, désolé.
Vous m'entendez?
A perdu quelques secondes.
Ah, vous m'entendez là?
Oui, on vous reçoit.
Voilà, alors Charlotte Corday, donc en fait, le bourreau, il va lui mettre des gifles sur sa tête décapitée pour savoir si elle ressent encore la douleur une fois que la tête est décapitée. Vous voyez, c'est des choses comme ça, bon, maintenant ça ne nous a pas apporté beaucoup. Je crois que le 19e est beaucoup plus inventif avec 1806, synthèse de la morphine à partir de l'opium, synthèse de l'aspirine hein, par Hoffmann en 1897, et puis... ça devient ensuite totalement industrialisé avec le groupe Bayer. Voilà, le 19e, avec l'hypnose, les dentistes, ce sont les dentistes qui ont inventé l'anesthésie, hein, parce que les rages de dents, c'est ce qui est le plus terrible. Ensuite, les gynécologues, Simpson, l'Écossais, puis l'accoucheur de la reine Victoria. Le 19e a été beaucoup plus propice, mais en fait, ça suit la révolution industrielle. Hein, la révolution médicale suit la révolution industrielle. À chaque fois, le monde bouge avec des croissances aussi bien littéraires que philosophiques, qu'économiques, que médicales, qu'industrielles. Voilà, on est un petit peu à chaque fois dans des verticalités.
Alors, avant d'aller aussi vite dans le temps, avant la morphine dont on va parler dans quelques instants, je voudrais qu'on reste sur ce 18e siècle où le traitement le plus utilisé, c'est l'opium. Nils Kessel.
Oui, peut-être juste pour ajouter, je pense que si on élargit l'idée même de la douleur, on peut tout à fait dire que il y a bien évidemment tout un ensemble de dispositifs qui sont développés tout au long de l'histoire, mais que nous n'en rangeons jamais dans l'histoire de la douleur proprement dite, qui sont par exemple des prothèses, c'est-à-dire des substituts de membres, mais aussi des outils, des instruments qui permettent, par exemple, de mieux marcher, voire de marcher tout court, d'être autonome en tant qu'être social. Et ce genre de dispositif, bien évidemment, il participe aussi à la fois à la prévention de douleur, émergence de douleur, peut être aussi, bien évidemment, à l'origine de douleur. Et donc, en élargissant, on peut voir aussi, bien évidemment, qu'il y a des tentatives, en quelque sorte, de compensation, de faire en sorte de rendre vivables des vies qui, sinon, seraient beaucoup plus difficiles. Et la douleur, de ce fait, est modifiée, bien évidemment, en termes de sensations. Après, par rapport à l'opium, ce qui est, bien évidemment, le grand fond de toute cette histoire, c'est à partir de l'époque moderne, c'est l'expansion européenne, l'expansion coloniale, et donc l'émergence de nouveaux marchés qui sont désormais eurocentrés. C'est-à-dire la Chine au 14e, 15e siècle, qui est une grande puissance avec un énorme marché intérieur et d'énormes marchés extérieurs aussi, c'est-à-dire des relations commerciales qui couvrent tout l'océan Indien et le Pacifique. Mais ce sont au final, ce qui change à partir du 18e siècle, c'est cette émergence des puissances coloniales européennes et leur accès à des nouveaux produits venant d'ailleurs, et souvent produits dans une économie qui est extrêmement violente, qui est celle des plantations, et qui sont maintenant mis à profit pour un ensemble en fait de produits coloniaux, dont plus tard aussi des médicaments, des substances thérapeutiques qui servent en quelque sorte à alimenter des marchés mondiaux. Et c'est à ce moment-là, avec cette production à grande échelle des matières brutes, que est accéléré le commerce international. Mais ce n'est pas encore un commerce qui est comparable à celui de l'industrie, justement que mentionnait Fabrice Laurin, de la taille de Bayer.
Donc 1806, la morphine est synthétisée à partir de l'opium. Ça, la révolution du 19e siècle, c'est la révolution de la morphine. Fabrice Laurin.
Oui, alors juste un petit retour en arrière pour dire combien les thérapeutiques, pour vraiment rebondir sur ce qu'est Nils Kessel, les thérapeutiques, c'est de la géopolitique. Et le premier grand fournisseur d'opium, c'était l'Empire ottoman. Et vous voyez comme actuellement, au 21e siècle, les empires se redéploient, enfin la nostalgie des empires se redéploie. Et voilà, l'Empire ottoman, c'était le premier grand exportateur d'opium. Il inondait le marché européen, hein. Et plus tard, ça a été l'Inde avec la guerre de l'opium vers la Chine. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui, la morphine, 1806, c'est le début d'une industrialisation, effectivement, des médicaments. La médecine s'organise. Elle n'est plus que... avant, on était surtout dans une quête diagnostique, si vous voulez. Hein, mais il y avait peu de traitements. Le premier traitement officiel, rationel dans l'histoire de la médecine, c'est le XVIIe siècle. C'est 1640, je crois, de mémoire. Et c'est de la quinine. On avait quinine, donc extrait de quinquina, qui sert d'ailleurs comme antipaludéen contre la malaria, et qui a été enfin titré, etc. Et morphine, donc on commence dès le 19e siècle à titrer la morphine, comme on le fait maintenant, un quart de grain pour les femmes, un demi-grain pour les hommes parce qu'ils sont plus gros, plus costauds. Et donc on commence à faire, dès le début du 19e siècle, ce qu'on fait maintenant en service de la douleur ou en service de réanimation d'anesthésie, c'est-à-dire des titrations morphiniques. Comme, voilà. Ça va servir de cette période.
Est-ce que, sur cette morphine, justement, Niels Kesser, est-ce que vous pouvez nous raconter, parce que 1802, le pharmacien allemand Friedrich Wilhelm Sertörner commence ses recherches et il révolutionne donc l'analgésique dans la médecine. Comment se passent ces recherches?
Il faut souligner là que justement, on reste dans une phase encore de production pré-industrielle. C'est-à-dire, on identifie relativement facilement, justement, des personnes auxquelles on attribue, justement, ce premier geste, qui est, par exemple, la synthèse. Et la première différence, elle est là. C'est-à-dire, on passe d'une pharmacie qui est largement basée sur la botanique, le règne minéral et donc l'utilisation de produits naturels à des tentatives justement de création de molécules. Et donc on identifie quelque chose, ce que l'on appellera le principe actif, c'est-à-dire un ingrédient spécifique auquel on attribue un certain effet. Et ce modèle-là, en fait, se distingue de la pharmacie traditionnelle dans la mesure où les concoctations que pouvait faire un pharmacien à un certain niveau pouvaient être entendues aussi comme des effets simplement synthétiques du breuvage en tant que tel. C'est-à-dire, c'est la collaboration des molécules, si j'ose dire, dans une perspective contemporaine. C'est-à-dire, on imaginait que la composition avec les différentes substances faisait que quelque chose se passait. Mais de fait, ce qui change avec le 19e siècle, c'est cette focale sur le principe actif. C'est-à-dire, cette volonté que le médicament, ce n'est plus un produit final, en quelque sorte, c'est un ensemble d'éléments que l'on peut distinguer, que l'on peut ensuite remplacer, échanger, et de fait faire une forme d'échange de molécules en fonction des effets que l'on désire. Et donc l'idée de Sertörner, donc de produire à partir de l'opium de la morphine, c'est sur ce plan-là en fait qu'elle est intéressante, parce que c'est une base à la fois chimique, donc pas forcément novatrice, mais elle préempte en quelque sorte un principe qui est essentiel même à la production industrielle, c'est-à-dire l'extraction d'un principe actif d'une quelconque plante ou d'un quelconque élément thérapeutique.
Sertörner découvre également les propriétés physiologiques de la morphine.
Oui, en fait, on est dans un modèle d'expérience avant la LED, mais qui sont pas forcément qu'on ne doit pas s'imaginer comme des essais randomisés contrôlés, mais qui sont généralement en fait des auto-expérimentations ou des formes d'utilisation par l'observation qui visent à saisir en quelque sorte la molécule.
Alors, au 19e siècle, il y a donc la découverte de la codéine, 1831, l'invention de la seringue, et à la fin du siècle, les découvertes successives de l'aspirine et d'autres molécules que l'on connaît bien aujourd'hui.
La synthèse de l'aspirine fut réalisée pour la première fois par un savant français, Guérard, en 1853. L'aspirine usine du Rhône, l'aspirine française, n'a pas la prétention d'être au-dessus de tout autre, mais elle prétend qu'aucune autre ne lui est supérieure.
France Culture.
Aspirine.
Eureka.
Usine du Rhône.
Natacha
Tri. Grande marque française.
Paracétamol, aspirine, à la fin du 19e siècle émerge l'industrie pharmaceutique. Ce nouveau marché, ça va changer les usages, Niels Kesser?
Oui, absolument. Ça va complètement changer le rapport à la douleur, dans la mesure où un nouveau type de produit sera accessible, qui est étiqueté, qui est présenté comme antidouleur spécifiquement, et pas comme, par exemple, dans le cas de l'alcool ou dans le cas d'autres substances, comme une substance qui peut être appropriée à différentes fins. C'est-à-dire, on arrive à un médicament spécifique contre la douleur. Et c'est notamment l'aspirine, vous l'avez entendu, pas supérieure à une autre. Donc, ça fait bien évidemment référence à Bayer et l'aspirine allemande qui est commercialisée à la fin du 19e siècle, et qui, en quelque sorte, montre très bien comme exemple ce qui change vraiment d'un point de vue de la production et de l'innovation thérapeutique. Parce que, justement, sertraline avec la morphine, ça reste pendant longtemps encore une fabrication assez artisanale. Donc il n'y a pas d'industrie en 1805 qui s'en saisit immédiatement. C'est produit lentement, à des échelles relativement faibles, et avec des standards qui sont en train d'évoluer. L'industrie que nous rencontrons dans la forme de Bayer n'est pas une industrie du médicament en tant que telle, c'est une industrie chimique devenue industrie du médicament. C'est-à-dire, ce sont des grandes entreprises déjà qui ont fait fortune avec notamment les colorants à base de goudron et qui utiliseront les déchets du goudron, c'est-à-dire de leur production de colorants, ou les colorants eux-mêmes à des fins thérapeutiques. C'est-à-dire qu'ils transforment en quelque sorte de la matière, par exemple le phénol qui est un déchet en quelque sorte de la production de goudron d'ouille. Ce phénol sera la base, la molécule de base pour ensuite la synthèse de l'acide acétyl salicylique. Donc en quelque sorte, on est dans une logique qui désormais repose sur des grands investissements financiers dans lesquels pour lesquels on est obligé de produire donc à grande échelle et de développer des marchés qui après assurent un rendement assez élevé. Et de ce fait, les premiers médicaments à échelle industrielle sont notamment des médicaments à base d'antidouleurs, des médicaments sédatifs contre des entre guillemets des petits problèmes de la vie quotidienne sans les relativiser et qui à partir des années 80, commence à inonder justement les marchés naissants de l'Europe et des États-Unis.
Fabrice Laurin, à propos justement de cette industrie pharmaceutique naissante.
Oui, que dire, non, Niels Kessel a dit beaucoup de choses. Je crois que le 20e siècle, puisque c'est ce dont vous voulez parler, voit surtout les deux guerres mondiales et je pense qu'il y a un autre élément aussi, c'est que l'instruction obligatoire en France a amené beaucoup plus de médecins. C'est-à-dire que des gens d'origine modeste ont pu apprendre à lire et écrire et faire la fac de médecine. Et donc, on commence à avoir, vous aviez mis tout à l'heure au début le docteur Knock, on commence à voir dans les campagnes le médecin de campagne. Il y a de plus en plus de médecins. Donc, la douleur, comme les autres symptômes et comme la santé publique, ça aboutira à la création de la sécurité sociale. Mais tout ce domaine améliore considérablement la prise en charge médicale des Français, par exemple, et notamment de la douleur. Donc, l'aspirine, je dirais, surfe aussi sur une croissance du personnel médical et infirmier. Parce qu'avant, les infirmières, elles étaient religieuses. Et je voudrais souligner l'importance d'un personnage qui a été le premier à créer les écoles d'infirmières, je dirais, laïques. Il s'appelle Bourneville. Parce qu'auparavant, au 19e... Les religieuses dans les couvents, en fait, dans les hôpitaux, pardon, elles prenaient les antalgiques et elles exfiltraient les antalgiques de la pharmacie centrale. Elles avaient les clés de la pharmacie centrale dans les hôpitaux et elles exfiltraient ces antalgiques vers leur couvent de province. Donc, il n'y avait pas du tout. Et pour les patients qui étaient hospitalisés dans les hôpitaux parisiens ou de grandes villes, eh bien, ils avaient juste à prier pour leur vie et leur survie, pour la douleur. Donc Bourneville crée les écoles d'infirmières et là encore c'est un relais supplémentaire vraiment pour garantir une bonne qualité de soins aux Français.
Alors à partir de
la Première Guerre mondiale,
Je me permets de vous interrompre, Fabrice Laurin, parce que je voudrais savoir plus précisément à partir de quand on voit une banalisation de la consommation d'antidouleurs, Niels Kessel. C'est à partir des années 50 ?
Ça dépend de ce que vous entendez par là, parce que
à partir de quand voit-on des millions et des millions de boîtes vendues,
oui,
par exemple?
Très tôt. C'est-à-dire, ce qui est important de garder en tête pour la fin du 19e siècle, c'est qu'on est du côté des entreprises de la chimie, dans une structure industrielle qui dispose déjà des compétences requises pour des grands marchés, c'est-à-dire la publicité, l'empaquetage, la logistique, etc. Et aspirine de Bayer, comme l'héroïne de Bayer, par exemple, sont tous les deux envoyés dans le monde entier. C'est-à-dire, quand on regarde l'industrie suisse, Ciba ou Bayer en Allemagne, on voit très bien, en fait, ce sont des entreprises qui sont implantées dans le monde entier, avec déjà leur réseau existant de colorants, et qui alimentent donc des marchés un peu partout. Et de ce fait, naît aussi, bien évidemment, une consommation de masse relativement vite, parce que ces médicaments sont efficaces. L'héroïne, comme un médicament anti-toux, donc un sirop, a un effet antitussif. Elle est efficace sur ce plan-là, sauf que elle est aussi un très fort opiacé, et de ce fait, elle a d'autres fonctions aussi.
Je suis tombé d'un échafaudage au travail. Je me suis cassé la clavicule, arraché toute une partie de l'épaule et cassé le dos. La première fois que je suis allé voir le médecin spécialiste de la douleur, il m'a donné 480 pilules antidouleur. Juste pour un mois. Mais rapidement, ça n'a pas suffi. J'ai commencé à en prendre de plus en plus et très vite, je suis devenu accro aux pilules. Je ne savais pas l'effet que ça aurait sur moi, mentalement et physiquement. La sensation de manque, quand vous ne les avez plus, c'est insupportable. Parfois, on voudrait juste être mort. Vous y avez pensé ? Oui, deux ou trois fois. On voudrait juste que tout s'arrête. Sans les pilules, je ne voulais plus continuer.
Un témoignage de 2019 sur la crise des opioïdes ou l'épidémie d'opioïdes qui frappe les États-Unis et le Canada depuis 2010 et qui a fait l'an dernier 107 000 morts par surdose. Est-ce que cette crise dit quelque chose de notre rapport aux antalgiques, Nils Kelser ?
Sans aucun doute. Elle est révélatrice de, à la fois de douleurs qui sont très fréquentes, parce que quand on regarde notamment dans la population blanche qui est ici très médiatisée et qui a été ciblée par les entreprises aussi, on voit bien qu'on a une population qui complètement chamboulait les stéréotypes des Américains sur la drogue et l'addiction, qui était très fortement attribué aux populations marginalisées, et notamment à la minoritaire afro-américaine. Et donc, en quelque sorte, il y avait dans beaucoup de discours, notamment médicaux, il y avait une distinction faite entre la drogue, qui produirait l'addiction, et le médicament encadré par le médecin. Et bien évidemment, beaucoup de patients et patientes souffrent quotidiennement de douleurs, notamment de douleurs chroniques, de douleurs post-opératoires et autres. Et donc, la diffusion de médicaments antidouleurs, elle est très très importante aujourd'hui dans notre société, que ce soit la paracétamol ou que ce soit les opiacés. Et donc les opiacés en quelque sorte ont été introduits sur les marchés américains à la fin du 19e siècle. Ils y sont restés tout le temps, mais sous différents régimes policiers. Et à la fin du 20e siècle, pardon, on assiste à une libéralisation de ce type de marché et de nouvelles alliances qui sont faites entre les entreprises et la société américaine de douleur qui prône beaucoup l'utilisation de ces nouveaux molécules qui sont d'ailleurs pas du tout nouveaux parce que ces nouvelles molécules qui sont pas du tout nouvelles parce que il s'agit d'une forme à action prolongée d'une molécule de 1916. Donc en quelque sorte, les consommations répondent à des nouvelles définitions de l'accès au traitement, pas à la question est-ce que vous avez de la douleur, mais qui a le droit d'avoir tel ou tel type de traitement. Et là, on a assisté à un élargissement. On pouvait avoir des opiacés pour des douleurs type accident de sport.
Oui, ce qu'il faut souligner aussi, hein, c'est que tandis que d'un côté, hein, les pays occidentaux souffrent d'addiction et on meurt, les pays en voie de développement peinent à avoir accès à ces traitements également. Pour finir, un dernier mot quand même, Fabrice Laurent, est-ce que la recherche va trouver, puisqu'on parle d'invention, est-ce que la recherche va trouver de nouvelles molécules moins dangereuses pour traiter la douleur sur ces analyses?
Pour le moment, il y a, oui, on appelle ça en anglais un painkiller, un tueur de douleur. Il pose plusieurs questions, ce tueur de douleur. Pour le moment, effectivement, il n'y a pas eu de grande avancée depuis une trentaine d'années, hein. La morphine, on n'a pas parlé du fentanyl, mais en fait, c'est le fentanyl, voilà, qui entraîne les overdoses aux États-Unis. Mais moi, j'ai un regard un petit peu plus distant à l'égard de tout cela. C'est-à-dire que je me dis que selon les régions du monde, en fait, on a l'espèce humaine est addict à quatre types de produits. Et selon les régions du monde, selon l'accès aux produits, telle ou telle population, tel ou tel pays va privilégier une addiction. Certainement, les Américains ont accès au fentanyl et le guitariste Prince est mort dans son ascenseur d'une overdose de fentanyl, comme beaucoup. Mais aux États-Unis, par exemple, ils ne fument pas et ils boivent moins qu'en France. En France, on a en gros, les quatre produits, c'est l'alcool, le tabac, les antalgiques, base de cocaïne ou d'opium, et les anxiolytiques. Et on regarde que si les Américains sont peut-être numéro un mondial du fentanyl, la France, en termes d'alcool, de tabac et d'anxiolytiques, est plutôt aussi bien placée. Je parlais pas de la Russie pour l'alcool, hein, qui entraîne vraiment une perte d'espérance de vie chez les hommes. Alors, la question suivante, c'est si on trouve un antalgique absolu, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je reviens à mon leitmotiv sur l'empathie et le lien social. Je pense que c'est très important. Je crois que la douleur, elle a une fonction aussi de gardien de la vie et de maintien du lien social. Et regardez dans la rue, quelqu'un qui dit « Ah, j'ai mal !» Tout le monde va s'arrêter et venir vers
l'empathie face à la douleur. Oui, bien évidemment. En tout cas, en attendant cette antalgique absolue, merci beaucoup, hein, Fabrice Laurent. Merci, Nis Kessler, pour cette histoire de la douleur, de sa prise en charge. On se quitte avec un morceau qui a hissé la migraine au rang de tube de l'été avec Slenfoiré.
Mais ne m'attends pas, je me suis fait crever dans le bat en bas. C'est un vrai scandale, j'avais de la botule et de Atlanta. Je suis un sika comme Nima, c'est Toto, ouais Rina. Je suis un sika comme Nima, short de chez Gucci Sima. Je suis standard en Hollanda, bébé envoie les mandats. Une fiche de recherche, un trafic en inter.
Mal à la tête, elle fait mal à la. Mal à la tête, elle fait mal à la. Mal à la tête, elle fait mal à la. Mal à la tête, elle fait mal à la.
Je suis dans une nouvelle ère, dans un nouvel art, dans une nouvelle ère.
Merci à toute l'équipe d'Eureka, Alexandra Delbo, Loïc Dutoit, Mariam Ibrahim, Garance Préma, Anne-Lo. Merci à Antoine Vioz pour la documentation musicale, à la réalisation Félix Levaché, épaulé par Maria Pasquet, et à la technique aujourd'hui, c'était Florent Bujon. Vous pouvez réécouter cette émission à toute heure sur le site de franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On se retrouve vite pour un prochain épisode d'Eureka, et d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à inventer.
Bébé envoie les mandats, une fiche de recherche, un trafic en inter.
Mal à la tête, elle fait mal à la tête.